Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. À 15 ans, Elion fuit la guerre civile de 1997 en Albanie. Deux ans plus tard, après avoir séjourné en Grèce, en Allemagne, en Suisse, en Italie, il arrive à Roscoff. Après avoir réussi à se glisser dans un ferry pour l'Irlande, en utilisant les amarres du bateau, il retourne à terre pour aider deux amis malades. Arrêté et confié un foyer de l'aide sociale à l'enfance, il apprend le français, rencontre sa future femme et obtient le droit de rester sur le territoire. Il apprend sur le tas le métier de plaquiste. Aujourd'hui, à 42 ans, suite à des problèmes de santé liés au travail, il décide de se reconvertir. Bonjour Elion.
Bonjour.
Donc Elion, avant de décrire tout ce parcours là depuis l'Albanie jusqu'à Roscoff, pourriez-vous décrire la situation rapidement en Albanie, votre situation scolaire avant la déclaration de la guerre civile.
Bon, bonjour, je m'appelle Elion Morava, né en Albanie, 1982, ma vie, ça a commencé à aller à l'école comme tout le monde. Et en fait, j'ai vu une vie quand l'Albanie faisait partie de la dictature. Parce que la dictature chez nous est tombée à 89-90. Et après, le système a changé. Le système scolaire aussi a changé.
D'accord. Et quelles études vous avez poursuivies ?
Après, à partir de là, selon l'âge de l'école, j'ai entré dans l'école de préparation de la raffinerie. La recherche du pétrole, quoi.
D'accord. Alors, ça consiste en quoi ? Il y avait notamment, par exemple...
Dans notre ville, il y a une raffinerie pétrolière, en fait. Il y a l'école qui était prévue. Dans la raffinerie, il y a plusieurs métiers aussi. Hein. Moi, j'étais dans l'étude de la terre, percer et monter les tours, la géologie aussi.
Ouais, c'est tous les métiers liés à la recherche du pétrole.
La recherche du pétrole, voilà.
Ça vous a donné notamment une formation en dessin industriel.
Voilà.
Je le dis parce que c'est important pour la suite.
Ouais. Pour arriver là, certes, il y a des études à faire. On a commencé par les dessins techniques, étudier tous en 3D la terre ou les machines et tout. Parce qu'à l'époque, tout se faisait, on devait réparer même nous-mêmes les machines qui tombaient en panne.
D'accord.
Il n'y a pas à peine une entreprise qui va venir réparer. Là, il fallait faire sur place. On apprend beaucoup de choses.
Vous avez appris aussi le métier d'ajusteur.
Après, en parallèle, j'ai appris l'ajusteur tourneur et aussi une partie mécanique. Mais tout ça, c'était à part. Ça veut dire, sorte de deux écoles en même temps.
Ah d'accord, ok. Donc voilà, à 15 ans, vous avez ce bagage-là. Et là, la guerre éclate.
Après 97, la guerre civile éclate suite à des mauvais managements de le gouvernement albanais en laissant des entreprises... pyramidal s'installer et en fait pour venir vite, les Albanais ont tout perdu l'argent qu'ils avaient mis dans ces banques là
oui,
et
oui.
Après on cherche l'argent, l'argent est plus, on se venge, ça veut dire les Albanais ont brûlé les mairies, les préfectures, ouvert des dépôts d'armes, l'armée a déserté, la police a déserté et voilà, tout le monde s'est fourni des armes, il y a eu à peu près 7 millions Kalachnikov sortis des dépôts d'armes.
Oui.
Et des munitions, on n'en parle même pas. Hein. Il y a même des films, le War Dog, qui a été fait suite au taux de munitions qu'on trouvait en Albanie. C'est une histoire vraie.
Il y a eu aussi l'armée qui a intervenu. Enfin il y a eu au moins 2000 morts, peut-être plus.
Oui, c'était une guerre civile, c'est plus atroce qu'une guerre entre deux pays. Hein. C'est vrai, moi, la période que j'étais là-bas, j'ai eu quatre bons amis qui sont fait tuer. Voilà, on les a enterrés. Hein. Et après, voilà, c'était la partie la plus très très dure en fait que j'ai connue. Pour vivre dans une situation comme ça, c'est très 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 dur.
Et là, vous avez décidé, donc vous aviez 15 ans, enfin vous avez décidé avec vos parents.
Oui, mes parents avaient tellement peur que ça m'arrive la même chose qu'arrivé aux autres amis. Et ils ont fait nécessaire que je quitte l'Albanie, m'envoyer en Grèce. Parce qu'en Grèce, j'avais des frangins qui ont immigré avant pour...
Trois frères.
Oui, on est quatre. Je suis le quatrième. Et en fait, ils travaillent déjà en Grèce. Et c'est là, en fait, que mes parents ont décidé de trouver les moyens pour m'envoyer là-bas.
D'accord. Donc, vous arrivez en Grèce, vous êtes accueilli par votre frère. Et bon, il faut être logé, il faut être nourri. Donc, vous commencez à travailler déjà,
voilà.
Je crois.
Voilà, je commence à travailler. En plus, mon premier job que j'ai fait en Grèce, je n'étais même pas payé.
Ah, c'est vrai.
Voilà, ça m'a découragé complètement. Mais bon, après, j'ai pu travailler avec mes frères parce qu'ils sont carreleurs de métier. Et ben, en fait, il y a eu un chantier qui a commencé à l'île de Rhodes. On a déménagé d'Athènes pour aller à l'île de Rhodes pour travailler les étés, quoi.
D'accord.
Moi, je faisais préparation d'école, tout ça, approcher les carrelages auprès de...
Donc, c'est la première approche de métier de carreleur que vous referez en France aussi, ouais.
Voilà.
Et puis, à un moment, pour plein de raisons, vous passez de la Grèce à la Suisse, c'est ça ?
J'aimais pas du tout travailler en Grèce, bon, parce qu'il y a eu aussi une histoire politique et entre les deux peuples. On n'est pas très apprécié là-bas. Et c'est vrai que ça me dérangeait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner en Albanie.
Retourner en Albanie, pas aller en Suisse, non ?
Non, retourner en Albanie, de l'Albanie. Bah oui, parce qu'on est obligé d'aller en Albanie, de l'Albanie, en fait, payer un passeur en Zodiac pour débarquer en Italie. Et d'Italie, après, je remontais jusqu'en Suisse. Et de la Suisse, en Allemagne, et d'Allemagne, en France.
Ah d'accord, voilà. J'avais mal fait le parcours. Moi, je voyais d'abord Suisse, Allemagne et Italie, enfin. Donc, c'est, c'est Grèce, Albanie, Italie, Suisse, Allemagne.
Et définitivement en France.
Et pourquoi pas passer directement de l'Italie à la France
En fait, toujours comme des migrants, on cherche des pays qui payent le mieux, qui a moins de... C'est vrai que le franc suisse, si on convertit ça en lek, ça rapporte beaucoup plus d'argent là-bas que le franc français. Ou le Deutsche Mark, c'est vrai que le cours de change de l'argent, il était plus fort en franc suisse ou le Deutsche Mark.
Mais dans ces deux pays, vous avez dû être aussi clandestin, alors vous n'avez pas réussi à vous installer.
On faisait des demandes pour avoir des papiers, mais c'était nul.
D'accord. Ok, donc finalement, vous arrivez en France. Bon, là, on va un peu vite parce qu'il y a quand même des passages la nuit dans la montagne. Il y a des passages
dans le Zodiac. Les frontières ne se traversent pas avec un billet. Non, après, nous, c'était une période que l'Albanie était en guerre, le Kosovo était en guerre. Et c'est vrai qu'on était bloqués par l'Europe, en fait, pour pouvoir bouger comme on bouge aujourd'hui. Et le seul moyen, c'est payer les trafiquants, en fait, les passeurs pour traverser la mer Adriatique, aller en Italie. D'Italie, dès qu'on arrive,
d'accord, ouais.
On a marché la nuit, toute la nuit, pour arriver jusqu'au lendemain. Le matin, un point de rendez-vous, il y avait des fourgons qui nous attendaient. De là, après, qui nous ont amenés jusqu'à la gare de Bari, en Italie. À partir de là, après, on a pris le train pour arriver jusqu'à Milan.
D'accord, oui. Ouais, tout ça, ça coûte aussi, ça coûte
beaucoup
très cher.
Tout ça, c'est très cher. Hein. Tout, à l'époque, ça se payait tout en dollars.
C'était 2 000 dollars, je crois.
C'était 2 000 dollars par personne. Hein. Nous, on a eu des connaissances.
Vous avez payé moins cher.
Voilà, on payait moins cher. C'est comme ça, hein. Ça se négocie. Bon.
Et à un moment, vous arrivez donc à Paris, et là, vous décidez non pas d'aller, parce que vous voulez aller... En Angleterre. Ah, pourquoi l'Angleterre et pas la France ou un autre pays ?
D'Italie, on allait un peu en Suisse, de Suisse, on est en Allemagne, parce qu'en Suisse, en fait, c'est très dur pour travailler. Et l'Allemagne, j'ai travaillé pour faire un peu d'argent.
Qu'est-ce que vous avez fait comme travail ?
Ramassage des fraises, des pommes, parce qu'on était dans une région où il y avait beaucoup de pommes, comme ici, comme la Bretagne.
Ouais, ouais.
Et tout cet argent-là, en fait, que j'ai réussi à économiser, je me suis dit, il faut que j'aille en Angleterre.
D'accord.
Parce que l'Angleterre, à l'époque, pour les Albanais, c'est qu'on rentre en pays, ils ne pouvaient plus nous ramener au pays.
D'accord. Voilà. Vous étiez, a priori, une fois passé la frontière, vous étiez sûr de pouvoir y rester.
Voilà, c'est ça, en fait. C'était cet avantage-là que l'Angleterre offrait.
OK. Et pour y aller, vous choisissez non pas Calais, mais Roscoff.
En fait, à force de rencontrer tellement de gens qui ont fait le passage une fois ou deux fois, ils ont dit qu'il ne faut pas aller à Calais parce qu'il y a trop de monde. Et sur 10, il y a un qui passe, quoi. Et c'est là que j'ai trouvé une carte maritime. En fait, j'ai trouvé des lignes de bateaux qui partaient de Roscoff.
D'accord, c'est sur la base d'une carte avec des lignes tracées.
Voilà, des lignes de ferry, en fait. On dit, tiens, pourquoi pas on essaye de partir de là, de Roscoff.
Ça sera d'accord. Pas... Là, vous étiez quatre à ce moment-là. Hein.
Oui, voilà. On était deux bons amis, on est toujours amis, hein, qu'on a décidé de partir. Et c'est vrai qu'en partant, il y a deux autres collègues qu'on connaissait, hein, qui ont dit, écoute, on vous suit. Comme ça, après, comme on dit, l'union fait la force.
Oui, oui, oui.
On se sent plus rassuré.
Et là, l'opération suivante, c'est de monter donc sur un ferry et vous êtes quatre.
On est arrivé à Paris. De Paris, on a trouvé la gare de Montparnasse. Et à partir de là, en fait, on a pris les billets pour aller à Brest. Et en fait, on a pris les billets pour aller à Brest, mais on s'est arrêté à Roscoff.
D'accord, oui.
Et à Roscoff, après, on s'en est allé à...
La gare maritime.
Gare maritime, voir un peu la situation, l'embarquement, comment on va faire. En fait, on a étudié quoi. Et c'est vrai que il n'y a pas de moyen pour passer par la passerelle parce que il faut un billet, il faut des papiers. Et en fait, le seul moyen qu'ils nous offraient, c'est passer par les amarres, en fait.
D'accord, alors c'est les amarres d'un ferry, donc c'est fait peut-être 100 mètres de long, je ne sais pas. Il faut passer au-dessus de l'eau.
Disons 30 mètres. Hein,
ouais, 30 mètres, ouais.
Mais après, c'est vrai que, on s'est dit, on a traversé l'Europe, on ne va pas s'arrêter là. Hein.
C'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, ce qui est étrange, c'est que vous y allez, mais vous revenez.
En fait, sur la route, parce que dans tout le parcours qu'on a fait, on a dormi quand même dehors, hein, on n'a pas dormi dans les hôtels.
Non.
Et c'est vrai que on a les deux copains qui nous ont suivis, en fait, c'est eux qui ont tombé malades. Ils ont attrapé la fièvre de vomissement, commencé à vomir, ça ne sentait pas bien. Et nous, on était pressés pour monter. Et avec mon ami, je suis allé le premier. On a monté, je suis monté le premier, il m'a suivi. C'était dur, mais on a réussi quand même. Mais après, c'est vrai que les autres n'avaient pas de force. Ils n'avaient pas de force pour monter. C'était impossible. Et en fait, si on restait en bateau, si on se faisait choper, c'était le retour direct en Albanie. C'est comme ça qu'on a décidé de redescendre, en fait, aller demander de l'aide. On a vu, il y avait une petite pièce, il y avait un gendarme qui faisait gardien. On est parti demander de l'aide d'abord.
Et d'accord. Voilà. Donc ils sont pris en soin, vos deux camarades.
Oui, oui. Voilà. En fait, au début, ils étaient des touristes, mais dès qu'il a compris des réfugiés, tout de suite, ses collègues sont arrivés.
Et ça change de statut.
Oui. Ouais.
Et là, coup de chance, parce que vous étiez encore mineur, on va dire.
Moi, j'étais mineur avec mon ami, mais les deux autres personnes étaient majeures.
Donc, vous étiez ce qu'on appelle mineur isolé, je crois. Enfin, vous avez été accueilli dans un foyer d'aide sociale à l'enfance.
Ouais, non, on ne savait pas qu'en France, il y a une loi. Si vous venez mineur, si vous êtes mineur, vous êtes protégé par l'État jusqu'à l'âge...
Jusqu'à 18 ans.
Ouais. 18 ans. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, pourquoi on est séparés, pourquoi on n'est pas avec les autres? Parce que là, on dit, vous êtes mineur, jusqu'à vos 18 ans, vous êtes sous la protection de l'État français.
Ça, c'est une chance,
oui. Oui.
Et là, en plus, vous avez été très bien accueilli, semble-t-il, enfin, d'après vos témoignages. Hein,
Oui, oui, on a été placé dans un foyer pour mineurs au début, mais bon, c'était vraiment des jeunes, quoi.
C'était plus.
Ouais, après, bah, nous, dans notre physiquement et mentalement, on était des adultes, quoi, si on veut, parce que bon, tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a vu, c'est vrai que trouver dans un foyer avec des enfants de 10, 11 ans, pour nous, c'est des bébés, quoi.
Vous étiez là avec des plus grands après, non?
Parce après, que, oui, ouais. Ouais, on a fait une demande parce qu'on ne se sentait pas bien. On a dit, bah, y a pas d'autre foyer un peu plus grand. Et c'est là, en fait, on a déplacé un foyer avec des plus grands, de 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans.
Ouais, et puis ils n'ont pas la même histoire. Eux, ils sont.
Oui, après, bon, on a eu cette chance-là qu'on était avec dans un foyer avec des jeunes français. En fait, on n'a pas eu de différence que les immigrés à part et les Français à part. Non, non, on était bien, très, très bien accueillis.
Et grâce à ce foyer, donc, vous avez pu apprendre le français.
Oui, on a demandé en fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, apprendre le français, parce que ouais, moi, je comprenais rien en français en fait. Et j'attendais je, mais pour moi, c'était.
Ouais, je précise qu'entre temps, vous avez quand même appris une bonne partie de l'allemand, le grec, l'italien.
L'italien, oui, l'italien pour les Albanais, c'est une langue un peu collé dans l'ADN parce qu'on a grandi en fait en regardant les chaînes italiennes, les dessins animés italiens.
Et c'est d'accord, vous en aviez déjà des éléments. Ouais.
Voilà, c'est vrai que l'italien, personnellement, j'ai appris par la télé l'italien.
Ouais.
Alors, quand l'anglais, j'ai appris quelques cours privés en Albanie avant que la guerre civile commence en fait. Et bon, je parle un peu, mais c'était.
Et
après, quand j'ai commencé à sortir en Europe, comme on dit, parce que pour nous, la Grèce ne fait pas partie de l'Europe, elle fait partie des Balkans.
Oui, elle fait quand même partie de l'Europe, mais bon.
Oui, de l'Union européenne. Ouais. Et c'est vrai que quand on est arrivé en Italie, c'est à partir de là que je commençais à communiquer en anglais et en italien en même temps. Quoi.
D'accord.
Ça a eu des fois en anglais pour sa phase de touriste.
Et là, donc en France, en 3 mois, vous avez finalement assez de français pour parler correctement, c'est ce que vous m'aviez dit. Ouais.
Oui, bah, on a fait une demande, en fait, et le foyer a trouvé une association, la BAF, on appelle ça, c'est un pontanisène à l'époque. Et on s'est inscrit pour apprendre des cours de français à l'association, à la BAF.
D'accord.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai déchiffré la langue française assez rapidement. Hein. Et c'est à partir de là, en fait, avec les cours, bah, en 3 mois, en fait, j'ai fait équivalent de 3 ans.
Ouais, c'est pas rien.
Je suis allé trop vite, et même les profs étaient étonnés. Bah, moi, j'avais des cours différents par rapport aux autres.
D'accord, ouais. Mais justement, alors là, tout ça, tout ce parcours-là, on arrive à 18 ans par là, hein.
Oui, après, on grandit, hein, bien sûr. Oui, après, il y a le... Bah, à 18 ans, on vient majeur, et en fait, on est suivi par le foyer. Et bah, entre-temps, quand je vis à Brest, bah, j'ai rencontré ma femme aussi.
Ma d'accord, oui, ouais, c'est ça. Et là, donc, là se pose la question du travail. Et y a, à 18 ans, il y a deux voies possibles au moins. Bon, il y a votre femme qui arrive là, donc elle est en train de faire des études.
Oui, bah, comme je l'ai rencontré, bah, elle a fini son bac. Et après, elle a commencé des études... pour le commerce international au ciel au Relais Crayon, l'école de ciel.
Mon école de...
Voilà. Après, bon, on a décidé de se marier aussi parce que, bon, il faut être honnête, hein, il fallait bien aussi des papiers pour long terme.
Oui, oui. Enfin, faut préciser que c'est toujours votre femme, donc c'était pas un mariage blanc.
Non, non, on est toujours ensemble.
Oui, voilà.
Oui, ouais. Il y a plein de gens qui ont pensé à ça, tiens, voilà, mariage blanc et suicide. Bon, on a eu... Non, non, mais bon, après, c'est comme ça, hein. L'humain est jaloux. Hein.
Oui, oui, on peut dire facilement du mal des autres. Mais en l'occurrence, là, c'est une belle histoire.
Et après,
même si voilà. Elle vous a sauvé, finalement, parce que sinon, vous auriez dû repartir. Hein.
Non, j'avais un cadre de séjour, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait les périodes qu'il y avait les élections entre Chirac et Le Pen. Et c'est vrai, ma femme a eu peur. Elle a dit, bah, écoute, imagine si Le Pen passe, bah, ils vont t'envoyer au pays. Et c'est là qu'elle me dit, en plus, c'est elle qui m'a proposé. Hein. Elle dit, bah, si tu veux, on se marie, au moins, t'es tranquille, tu partiras pas. Mais bon, voilà.
Ok.
Et c'est passé, on s'est marié. Après, bah, je suis venu un homme responsable.
Là, tout d'un coup, vous devenez chef de famille.
Chef de famille, je veux.
Et donc, il faut travailler. Non, mais je dis ça en rigolant, mais... Parce que là, à ce moment-là, vous pouviez, vu les compétences que vous avez développées, vous avez appris plusieurs langues, vous avez... Déjà, en Albanie, vous aviez une formation, vous avez fait un parcours assez invraisemblable qui témoigne quand même de beaucoup de choses. Vous n'avez pas souhaité faire une formation supplémentaire, vous avez souhaité travailler tout de suite, parce que justement, votre femme, c'est ça, avait besoin...
Ma femme a fait ses études, elle a fait un emprunt pour payer son école. Et en fait... Si moi je prenais les études aussi, il fallait quand même encore de l'argent pour faire une formation. C'était, en fait, il fallait de l'argent, il fallait travailler. Et après, bon, le bâtiment, il ouvre les portes plus facilement pour les gens d'ailleurs.
Oui. Ils sont en train d'essayer de changer les lois d'ailleurs.
Ouais. Et en fait, non, je ne pouvais pas. J'ai dit, écoute, je vais commencer à travailler. J'ai dit à ma femme qui finit ses études, après on verra plus tard. Mais après, on rentre dans l'engrenage, qu'on commence à mettre les pieds dans un métier, après c'est compliqué.
C'est difficile de s'arrêter pour repartir sur des formations. C'est possible, moi je l'ai fait, mais bon, c'est vrai que c'est difficile.
Après, quand on vient dans un pays,
vous
ne cherchez pas non plus à avoir la cerise sur le gâteau. Faut avoir la farine, l'eau, pour faire le gâteau. D'accord. Et c'est vrai que non, il fallait travailler en fait, il fallait gagner sa vie pour pouvoir.
Donc le premier boulot, c'était quoi?
En fait, comme j'ai dit avant, qu'en Grèce, je travaillais avec mes frères en carrelage, et je me suis dit, tiens, je vais faire du carrelage. Quoi. Et je me suis inscrit en agence intérim, bon, je trouve du travail tout de suite. Et je fais une mission de 3 mois. Et l'émission a terminé. Après, j'ai été contacté par l'agence. Ils m'ont dit, écoute, on a une mission pour toi en placo. Tu sais faire? Honnêtement, je ne savais pas faire, hein, mais j'ai dit oui.
D'accord.
J'ai dit oui parce que je voulais du boulot, je ne voulais pas faire mon difficile. J'ai dit non, oui, je sais faire.
Donc, c'est vrai. Vous êtes retrouvé dans une entreprise, dans un bâtiment, il fallait monter des cloisons et vous ne saviez pas faire.
Voilà, c'était l'entreprise d'ici de Brest. Hein. C'était très bien passé, hein. C'était l'entreprise de Galperfond. Et dès que j'arrivais, j'ai vu le chef, je lui ai dit, écoutez, je ne connais rien, mais j'ai envie de travailler. Quoi. Il faut m'expliquer. Et si je fais l'affaire, vous me gardez, je ne fais pas. Il a dit, écoute, je cherche quelqu'un, une petite main. Voilà, c'est parfait. Au moins, tu es honnête, tu m'as dit que tu ne connais rien. Et c'est vrai, en 6 mois de mission que j'étais avec eux, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, si le début était un peu dur, parce qu'il disait amener un cisaille, j'amène le marteau. Quoi. Je ne connaissais pas les mots. Les mots des outils, c'était un peu compliqué. Mais j'ai appris assez vite.
D'accord. Donc après, parce que vous êtes devenu finalement plaquiste. Hein.
Après, en fait, entre carrelage et placo, en fait, placo, j'ai aimé le sens que. C'est plus constructif, en fait.
Peut-être d'abord, on va décrire le métier. Est-ce que vous pourriez décrire le métier de plaquiste? Parce que tout le monde ne s'imagine pas. Moi, avant qu'on m'en parle, je ne savais pas trop vraiment ce que c'était.
En fait, ce n'est pas un métier facile. Hein, ça... Mais bon, c'est un bon métier quand même. Parce que le plaquiste, c'est grâce au plaquiste qu'aujourd'hui, on a des chambres, on a une salle de bain, on a un amphithéâtre, on a une salle de réunion, on a des plafonds. C'est un métier que c'est un peu de l'art. Hein. On crée, c'est la création. Sur un chantier, on a des plans.
Il faut imaginer, en fait, pour le point de départ, c'est comme ça que vous m'avez fait comprendre la chose. Tout le monde a sans doute visité déjà un chantier d'un bâtiment collectif, d'un grand bâtiment, une bibliothèque, je sais pas, une école, une maison de retraite. Quand on visite ce bâtiment, dans les premières visites de chantier, tout est vide, c'est ça, hein?
Oui,
il y a des piliers et des espaces à définir.
Après, bien sûr, hein, quand on arrive, surtout les grands chantiers, hein, parce qu'après une maison, c'est un petit chantier, mais c'est pareil, il faut voir le plan. Et quand on arrive, on n'a pas les piliers, les dalles de béton, c'est à partir de là, en fait, que...
Il faut imaginer tous les cloisons.
Il faut imaginer, voilà. On regarde les plans. On regarde les plans. Et à partir de là, on se décide de quelle partie on doit commencer parce qu'il y a plein de choses.
Et vous avez été jusqu'au stade donc, de chef d'équipe, c'est-à-dire c'est celui qui va organiser ce chantier à ce moment-là pour définir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre telle et telle et telle cloison.
Tout à fait. En fait, comme je dis, je ne connaissais rien. Hein. Après, je fais mes 6 mois d'intérim. dans la première entreprise. Et après, ben, je commençais encore un intérim dans une autre entreprise. Et c'est, je tombais aussi sur des bons chefs hein, qui m'ont appris le métier. Et c'est vrai qu'au bout de 5 ans d'intérim, je passais chef d'équipe.
D'accord, il y a plusieurs grades, je crois.
Oui, après, bon, on appelle ça les niveaux, quoi. Ça veut dire niveau 2, niveau 3, et après, le chef d'équipe, c'est niveau 4.
Le chef d'équipe, c'est celui donc qui a les plans dans la main, qui voilà. décide de l'endroit où on va poser à partir des plans.
Bah, c'est lui qui est capable de savoir où il doit partir, où la cloison va, quel type de matériau va être fait, et ainsi de suite.
D'accord. Et il travaille donc avec une équipe qui peut aller jusqu'à 20 personnes.
Tout à fait. Après, moi, je gérais jusqu'à 18 personnes. Après, avec moi, ça fait 19. Et je fais pas mal des gros chantiers, comme maisons de retraite, des hôpitaux, les urgences à la Cavale-Blanche, j'étais là-bas. Après, j'ai fait l'hôpital de jour, Saint-Marc, après maisons de retraite. Bon, moi, 70% de maisons de retraite autour de Finistère, c'est moi qui ai fait.
Est-ce qu'on peut décrire, alors là, la partie chef d'équipe, parce que là, il y a des... Comment vous... Parce que c'est intéressant, votre conception du management, c'est-à-dire, vous avez même... Vous avez parlé un moment de, par exemple, un employé qui arrivait en retard, mais il bossait bien, ou... Comment
après,
ça se passe
après,
pour...
Oui, on évolue dans le métier, on vient chef, après on vient chef, ce n'est pas non plus savoir lire quels les plans, hein. Mais être chef, c'est aussi savoir communiquer avec son personnel. Parce que bon, il y a plein de gens qui sont des bons bosseurs, mais bon, ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes psychologiques. C'est vrai, moi, des fois, je commençais ma journée à être assistant social, psychologue, c'est... Après, bah, je commençais mon métier en tant que plaquiste, chef de chantier, voir les architectes. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup de cas, hein, que les gens bah, viennent en retard, il faut parler pour comprendre pourquoi il vient en retard, qu'est-ce qu'il y a. Après, bon,
comment vous faites pour le motiver pour,
Motiver, c'est toujours donner le poste de travail qui est pour lui, en fait. C'est qu'il se sent bien, parce que si on donne une tâche un peu plus, en fait, il s'est paumé, il ne sait pas où il est, il va plus ralentir qu'avancer. Hein. Après, bon, s'il commence à parler, monter le moral, déjà dès le matin, il est plus motivé. Plus, Non, après, moi, j'ai toujours respecté mes collègues.
Vous m'aviez dit que si vous avez quelqu'un qui ne sait pas, on le voit, dans ce cas-là, il fait ce qu'on lui dit.
Oui.
Si quelqu'un sait, s'il n'a pas la même méthode que vous, vous pouvez l'accepter à condition que vous vous mettiez d'accord sur le résultat, c'est ça?
Après, après, moi, j'ai toujours donné carte blanche. Hein. J'ai dit, écoute, mon résultat, c'est ça. Si je vais t'expliquer ma manière, parce que mine de rien, on a un DTU aussi à respecter. Hein. Un DTU, un PV, un procès verbal, parce qu'on ne peut pas faire un travail...
Oui, il y a des contraintes, enfin, il y a un cahier des charges. Ouais.
Voilà, et en fait, après, il y a des manières de le faire. Moi, je donne ma manière à moi, qui est plus vite, plus moins fatigante. Après, si lui, il a une autre manière, mais le résultat est le même, je donne toujours carte blanche. Après, c'est à lui de savoir, après, quelle était la meilleure méthode, si c'est la mienne ou la leur. Après, même moi aussi, j'apprends aussi des fois.
Vous apprenez de vos propres équipiers, oui. Ouais.
C'est comme ça, il n'y a pas honte à dire que tiens... Ouais.
Parce que souvent, dans le management, c'est plutôt il y a des process prédéfinis, et puis on respecte le process, et,
oui, voilà.
Et ça ne va
après,
pas plus loin.
Oui, il ne faut pas non plus partir trop de ce qui est prévu, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas avoir le PV, on ne peut pas avoir les cloisons coupe-feu ou les plein de choses. Parce qu'on fait un chantier, mais il faut respecter ce qui était vendu.
D'accord, oui.
Voilà.
Et vous m'avez dit aussi que vous, chef d'équipe, une tâche supplémentaire, c'est aussi de discuter avec un architecte. De façon...
Après, c'est mon devoir, en fait. Tous des problèmes, parce que là. Un chantier, il est fait en béton, hein, on ne parle pas, je ne sais pas quoi, mais bon, si le maçon se trompe dans les mesures...
Oui, c'est grave.
Après, après ça arrive, hein, on ne va pas détruire le bâtiment maintenant pour autant. Hein. Mais après, c'est à moi de voir, quand je commence à tracer mes cloisons, voir résoudre le problème. Parce que s'il manque 10 cm, dans quelle partie on doit enlever, dans quelle partie doit... quelles pièces on doit faire plus petites. Et après, bah, souvent, dans les grands chantiers, comme on doit respecter aussi les rayons handicapés.
Ah oui.
Et après, bah, c'est pour ça que je vois souvent avec les architectes, avec l'architecte, pour que lui, déjà, il prenne note, étudie sa part. Après, dans nos bureaux de contrôle aussi, qui décide.
Et comment vous évaluez le temps nécessaire à un chantier? Parce que c'est très important. Si vous trompez d'une semaine, c'est énorme, par exemple. Est-ce qu'on vous impose un temps ou ça se discute? Comment ça se passe?
Après, ça dépend des entreprises. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai voulu être très vite devenu chef d'équipe. Je n'avais jamais de temps. En fait, c'est que...
C'est vous qui définissiez le temps?
Non, c'est pas.
Après, le délai, il y a un délai.
Après, on sait que, disons, ce chantier-là, on va faire en 6 mois, quoi. Mais bon, ça peut être 6 mois et demi, ça peut être 5 mois et demi.
D'accord.
Mais bon, il y a une marge comme ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est le chantier va vite si l'entreprise fait nécessaire aussi. Par exemple, si moi, je vais tout seul.
Oui.
Et, il peut attendre 3 ans.
Mais en plus, il y a plusieurs, ouais. Il y a plusieurs métiers à faire cohabiter, en plus.
Après, voilà, c'est que le plaquiste est aussi celui qui donne du travail un peu à tout le monde. Parce que si on monte une cloison, par exemple, on fait un côté plaquage, l'autre côté, l'électricien qui passe, le plombier qui met les tuyaux, plein de trucs.
D'accord. Bon, on le voit à peu près, ce métier qui vous a plu, que vous avez appris quasiment, enfin tout en entier sur le tas.
Oui, j'ai appris sur le tas, c'est vrai que...
Et donc aujourd'hui, vous posez la question, enfin vous faites plus que poser la question, vous commencez une réorientation. Alors qu'est-ce que, avant d'aller sur cette réorientation, enfin juste en dire quelques mots, quelles sont les raisons, un moment, enfin... D'abord, on va parler du plaisir au travail et après des difficultés. Et à partir des difficultés, on verra la réorientation. Donc, quel est le plaisir de ce travail de chef d'équipe, plaquiste?
Après, en fait, c'est toujours... Il y a des gens qui vont aimer ce métier, d'autres vont aimer l'autre métier.
Ouais, pour vous,
Moi, j'ai aimé le métier plaquiste, comme j'ai dit. C'est en regardant les autres travailleurs qui faisaient un plafond, ils faisaient des cloisons. J'ai dit, tiens, waouh, c'est... En fait, on crée des choses avec ce fameux placo.
Ouais.
Et en fait, c'est la créativité. Et quand on est à la créativité, ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas.
Oui.
Et tous les jours, comme je disais, plus les chantiers sont grands, plus le défi est énorme. Parce que bon, il faut réaliser tous ces bureaux, toutes ces chambres, tous ces...
Vous préféreriez les grands chantiers, en fait, aux petits chantiers?
Moi, j'ai travaillé dès le début des gros chantiers et je préfère les grands chantiers. Les petits chantiers, je m'ennuie.
Ah ouais.
Et voilà, le plaisir, c'est ça, en fait. C'est qu'on est à des grands chantiers, on a souvent des trucs différents à faire, des trucs intéressants. Par exemple, aujourd'hui, on a un plafond, comme il y a ici au bureau. Demain, c'est un autre plafond, des cloisons arrondies. Il y a plein de choses, en fait, que dans les grands chantiers, c'est varié, en fait.
D'accord.
Et que dans petits chantiers, c'est quoi des appartements? On fait des appartements tous les jours, des cages à poules.
Oui, oui, oui.
Mais bon, il faut le faire, mais bon, voilà, c'est pas...
C'est moins intéressant.
C'est moins intéressant. Voilà, le métier plaquiste, c'est vrai que ce côté-là, c'est beau. Mais bon, après, et là aussi, c'est des inconvénients.
Oui, après, bon, les problèmes que vous avez rencontrés dans votre parcours, là... Si j'ai bien compris, c'est soit une incompétence, par exemple, d'un chef qui a mal chiffré, soit un refus de reconnaissance, ou je sais pas, on pourrait prendre un exemple, à un moment, vous avez dû faire...
Oui. Après, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de faire mon mieux et après de ne pas être reconnu vis-à-vis de l'entreprise. C'est par exemple, on a fait un chantier à l'Arsenal, et en fait... ils ont rajouté un étage tout au haut du toit. Et les matériaux, il fallait lever avec les grands grues, là, les grands matelots, là, qui montent à 60 mètres. Et en fait, à un moment donné, on avait des palettes qui étaient tout au bas. Et il y avait un monte-charge qui montait jusqu'au 5e. Nous devions monter jusqu'au 6e. Le monte-charge était en panne. Et là, y a eu une entreprise de Soprema qui sont venus, en fait, qu'ils ont loué cette grue-là. Pour eux, quoi. Et en fait, comme eux, ils avaient juste à descendre tous leurs déchets, tout leur matériel. Et en fait, je me suis arrangé avec le chef. J'ai dit, écoute, si ça ne dérange pas, comme la grue monte à vide, ça ne dérange pas qu'on monte une palette. On avait 7 palettes. Il dit, bah, écoute, Lyon, ouais, pas de souci, de toute façon.
Ça ne change rien pour eux.
Oui, voilà, ça ne change rien. Il dit, juste, par contre, fais vite pour pas qu'il attend, quoi. Il n'y a pas de souci, on mettait sur une grande passerelle, c'était fait sur de l'échafaudage. On mettait dessus, et voilà, on a fait. On a monté les 7 palettes comme ça, quoi. Après, pour remercier les gars, je suis parti le soir à Carrefour, j'ai pris un peu de cacahuètes, des packs de bières, une bouteille de vin, des coca, tout ça. Pour le lendemain, j'ai dit, merci, voilà, prenez votre apéro.
Oui, c'est un,
voilà, c'est un geste. C'est
le minimum,
quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je suis allé avec ce petit quai, j'avais pour 45 euros, hein, je suis allé au bureau, on m'a dit, écoutez, voilà, il y a eu la grue hier, les gars, ils nous ont aidés pour le remercier. Je lui ai donné quelque chose. Voilà. Moi, il y a 45 euros à sortir de votre poche. Ah, non. On ne peut pas sortir de l'argent comme ça. J'ai dit, attends, la grue, elle coûte 2 000 euros la journée. Et 45 euros, vous ne pouvez pas.
Ouais, ça, c'est
voilà, quoi. C'est la non-reconnaissance des gestes. Quoi.
Mmh.
Voilà, ça m'arrive aussi. On a fait aussi. À côté de l'école navale, là, c'est encore dans le site d'Arsenal, on a fait un grand chantier là, c'était une sorte de bureau de pas de bureau, des sortes de laboratoire. Et en fait, au milieu du bâtiment, il y a une pièce à faire. Et cette pièce, il fallait faire en cache Faraday en fait pour pas avoir de réseau de téléphone intérieur, parce qu'il y avait l'ordinateur en fait, c'était le cerveau de tous les autres ordinateurs. À partir de là, en fait.
Donc, il fallait le protéger avec une cage Faraday. Ouais.
Voilà. Et en fait, comme nous, on n'était pas réhabilités à faire ça. Hein. Et en fait, l'entreprise a complètement zappé qu'il y avait ça à faire.
Incroyable, oui.
Et en fait, c'était l'entreprise Sogea à l'époque qui avait le chantier, on bossait pour eux. Et le gars, le coordinateur de Sogea, il a dit il faut le faire parce que le chantier prend du retard. Il dit, écoute, on ne sait pas faire, hein, maintenant, je ne sais pas. Et lui, en fait, il a cherché toute la notice, comment on fait un cache à Faraday. Quoi. Et en fait, comme il avait fait un devis en fait, par les entreprises, c'était minimum 37 000 euros pour faire cette pièce-là. Quoi.
D'accord.
Et on est parti au bureau, dire à l'entreprise, écoutez, voilà, mais bon, ils ont oublié de chiffrer. Quoi. Ils ont cru que c'était un truc à faire avec du placo.
Incroyable, simplement. Ouais.
Et avec mon collègue Amar, lui, il savait, il avait pris côté jeune à souder, quoi.
Et donc, vous avez réussi à faire cette cache Faraday.
Voilà, on a trouvé un arc, des électrodes. On a réussi à faire cette cache Faraday, quoi.
Pour un tarif de plaquiste et non pas un tarif d'expert en cache Faraday, ouais.
Et la meilleure, c'est on a fini cette pièce-là, hein, comme nickel, était approuvée par la Sogea. Et mon collègue, à force de souder, il y a eu plein de pics de son pull, quoi.
Oui.
Et on est parti au bureau le matin, et on a dit, il dit, écoute, j'ai mon pull, il y a plein de trous, il est troué, est-ce que tu peux m'acheter un autre? Ah non, comment ça, acheter un pull? Attends, on vient vous faire gagner, parce qu'à 40 000 euros, incapable de vous payer un pull, quoi. Voilà, c'est.
Oui, ça c'est terrible. C'est...
Et on n'a même pas eu une prime, rien du tout.
Bon, d'accord, ouais, donc là c'est pas possible. Et en plus, c'est pas un métier. Il n'est peut-être pas payé à la hauteur. Chef, vous avez. Combien vous me parliez? Je ne sais plus, 16, 20 euros de l'heure pour
un chef. Au minimum, en fait, dès que le SMIC augmente, le SMIC de tout le monde augmente, en fait, de tous les niveaux.
Mais enfin, le SMIC c'est déjà très bas quand même. Pour des métiers. Non,
chaque niveau de.
Oui,
chaque
niveau, il y a
le SMIC.
Ouais.
Voilà, quoi. Si le SMIC de 11,0 va à 11,30, les autres niveaux augmentent de 30 centimes aussi.
Quoi. Oui, enfin, c'est pas. Ouais. Parce que vous disiez qu'à Paris, par exemple, il y a les mêmes boulots sont payés bien mieux. Ouais.
Bien sûr. Moi, j'ai un compatriote qui était là, à Brest. Lui est parti à Lyon. Lui était payé. Ça fait quelques années. Hein, il était payé à 12,0 de l'heure ici. Il est parti là-bas, il est à 15, quoi.
Ouais,
à Lyon.
Ouais, ouais.
Il est parti à Lyon, quoi. Pour le même calife. Hein.
Donc le manque de reconnaissance se traduit par pas mal de choses, y compris le salaire.
Le salaire.
Et donc en plus, à un moment, parce que c'est un boulot très physique, hein, vous avez eu des problèmes d'épaule,
même
une hernie.
Il faut dire aussi, ce plaquiste, c'est beau, crée tout ça, mais tout ce placo, c'est du poids. Hein. et pour mettre en œuvre, pour le faire entrer. Tout ça, il faut penser aussi. Hein, comme on fait des grands chantiers, ça veut dire qu'il y a des semi-remorques qui arrivent. Un semi-remorque, bah, il y a 20 tonnes de placo à décharger. Certes, il y a des collègues, mais bon, en tant que chef, tu es obligé aussi de mettre la main dans la pâte. Hein. Si tu ne travailles pas, les autres font la même chose. Et en fait, bah, oui, les années passent, porter du poids, bah, le corps lâche aussi.
Et là, vous avez vu, le rhumatologue même vous a dit que c'est un métier après 50 ans. Voilà,
après, oui, le problème à l'épaule que j'ai, c'est reconnu hein, par le métier des plaquistes. Hein, c'est l'usure, garder les bras en l'air, porter du poids. Aussi, bah, j'ai eu aussi une malchance, faire deux hernies inguinales à force de soulever du poids.
Oui.
Se faire opérer deux fois. Bon.
Ceci étant, vous n'avez pas souhaité faire reconnaître ces maladies comme issues du travail, comme maladie professionnelle.
Si, l'épaule est reconnue maladie professionnelle, mais les hernies inguinales, non.
D'accord. Et donc, vous avez décidé de changer de...
C'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il faut se dire aussi que ma retraite, elle n'est pas à 45 ans, hein, elle est à 65 ou 67 ans. Bah, il me reste presque 20 ans ou 25 ans à travailler et j'ai du mal à voir ma vie être sur le chantier à porter des plaques. Hein. Après, peut-être je suis tombé sur une entreprise qui ne m'ont jamais donné les personnes qu'il me fallait pour travailler et faire mon travail de chef d'équipe. Hein. J'étais souvent seul avec un bonhomme ou deux bonhommes. C'est vrai qu'à trois ou à quatre, c'est impossible à être chef. J'étais, mais bon, j'étais chef et balayeur en même temps. Quoi.
Alors que vous auriez pu continuer votre métier si effectivement il y avait eu vraiment des équipes.
Et c'est vrai que là, comment c'est abîmé partout, c'est ça, je dis stop et il tombe peut-être. Penser à se reconvertir.
D'accord. Et vous en avez même discuté avec votre femme et s'il y a...
Oui, bien sûr.
Tout le monde est d'accord, vaut mieux sauver la santé et faire un autre métier. Bon, je précise que vous aviez aussi une entreprise...
Oui, j'ai ouvert une entreprise en 2019 parce qu'à l'époque, l'entreprise où je travaillais, il n'y avait qu'un patron. Après, on est parti en scope, en coopérative et j'étais sollicité, hein, bien sûr, mais bon, je n'ai pas accepté l'offre. Parce que bon, ça ne me convenait pas. Et en ce moment-là, bah, ça parlait que l'entreprise va fermer, ainsi de suite. Et là, j'ai décidé en fait, de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur.
D'accord, comme plaquiste ou comme...
Comme plaquiste.
D'accord.
Voilà, après, j'ai fait un stage d'une semaine auprès de chambre de métier.
Ah oui, qui vous a un prix minimum de compta ou de...
Oui, voilà. Non, il y a eu un stage de fait, tout ça. Et après, bien sûr, j'ai... prévenu l'entreprise par lettre recommandée que j'ai ouvert mon activité parce que c'est la loi, il faut dire ça.
Oui.
Et après, voilà, je ne peux pas être une menace pour l'entreprise.
Bah non, si vous commencez, oui, ouais, avec un camion.
Et après, c'est vrai que j'ai exercé quand même mon entreprise aussi, hein, à faire des petits chantiers, bien sûr, parce que je ne peux pas être de 8h jusqu'à 17h à l'entreprise et après travailler pour moi.
Oui.
Mais j'en ai fait quand même quelques petits chantiers et je l'ai toujours en entreprise.
C'est ça, donc elle pourrait faire partie éventuellement, enfin en tout cas c'est une des solutions envisageables pour une éventuelle, enfin pour une reconversion.
Oui voilà, après en fait je pense à des projets hein, pour la reconversion. Après bon, si ça ne me plaît pas, parce que c'est comme tout, hein, il faut y travailler là-dessus pour aussi... Si le métier que je choisis ne me plaît pas, bah, je pourrais quand même continuer mon activité en tant que plaquiste, travailler pour moi.
D'accord. Et vous n'excluez pas non plus, je crois, une formation éventuelle, si c'est nécessaire, pour faire un autre boulot?
Oui, c'est ça, en fait. Je suis en train de voir, c'est faire une formation pour apprendre notre métier. Hein. Ça peut être, je ne dirais pas quoi, mais bon, c'est un peu top secret.
Ah, on verra. À la prochaine émission.
Non, et en fait, c'est le but, c'est préserver sa santé, quoi. C'est pas non plus aller à la sécurité sociale, demander quand je serai payé pour mon arrêt maladie, pour mon accident de travail.
Vous avez une vision assez libérale, pas chacun se prend soin de sa santé.
Vaut mieux voir ça. Je préfère voir ça maintenant parce que c'est l'âge qu'on apprend et on est toujours motivé, hein. que attendre 55 ans, être mal au point, en santé.
Il faut faire attention à soi. Ouais. Il faut toujours voir comment. Des portes de sortie aussi.
Ouais. Voilà, et après, si on veut se reconvertir, en fait, après, il faut une expérience. Je ne vais pas commencer à 55 ans, 57 ans, faire un autre métier, sachant que 65 ans, on prend la retraite.
Mais là, vous n'avez que 42 ans. Là,
voilà, ouais. Voilà, comme ça me laisse le temps, après, évoluer dans l'autre métier ou faire autre chose.
D'accord.
De toute façon, celui qui cherche du travail, il en trouve.
Ça, c'est la vision du migrant qui a trouvé tout de suite du boulot alors qu'il n'avait pas les papiers.
Bah, de toute façon, soit tu crèves la dalle, soit tu travailles. Hein.
Ouais, alors bon, ouais, on pourrait débattre là-dessus. moi, je voudrais. Enfin, je suis en partie d'accord avec vous, mais pas tout le temps. Il y a des gens, quelquefois, qui ne trouvent pas de boulot. Bon. Mais. D'habitude, je conclue sur les conseils aux jeunes hommes. J'ai envie de faire autrement. Donc, on n'a pas prévu ça. Vous avez, pendant de 97 à 2000, ça dure 3 ans, vous avez fui une guerre, vous avez été en Grèce, vous avez été clandestin, vous avez passé les montagnes, vous avez trouvé du boulot partout, vous avez appris autant que possible les langues sur place. Et dès qu'on vous a donné des papiers, dès que vous avez pu vraiment... Vous avez travaillé tout de suite, ouais. Donc vous pouvez dire, oui, si on trouve du boulot, si on cherche du boulot, pour vous c'est valable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette longue expérience de 3 ans, là, de migrants en fuite, on va dire? Qu'est-ce que ça vous a apporté, si vous pouviez dire? Qu'est-ce que ça donne comme
en fait, ça
rapport
forge,
à la vie, compétences, etc.
Ça forge, en fait, parce qu'on voit sa vie devant un fusil, on voit sa vie... dans un Zodiac, qu'on traverse la mer, que s'il se casse en deux, se fait bouffer par les poissons. Après, on voit sa vie en train de traverser des frontières, cachée, dormir dehors. Et c'est vrai que s'installer, trouver du travail, construire sa vie, c'est très important.
Oui.
Et travailler, certes, mon cas, il y a du travail, des métiers sont venus, on prend le travail. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Il faut penser aussi, tiens, ce travail-là, je n'aime plus, mais je peux faire un autre qui me convient.
À un moment, vous m'avez dit, à propos de quand vous étiez clandestin, voilà, je suis vivant aujourd'hui, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Le bilan du jour. Et après, finalement, vous êtes installé. Ouais, c'est...
Après, c'est... Non, il faut... De toute façon, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Il faut travailler. Hein. Le travail, c'est celui qui nous donne un toit, celui qui nous donne une voiture, celui qui nous donne des vêtements pour s'habiller. C'est ça.
Oui, une vie sociale.
Une vie sociale. Hein. Après, chacun le choix. Une fois qu'il se sent bien, si le métier ne lui convient pas, il veut faire une formation, il veut faire, se reconvertir. Mais il faut être toujours motivé. Il faut être toujours motivé.
D'accord,
il faut se lever le matin et dire « je vais travailler ». Il ne faut pas « tiens, je vais travailler aujourd'hui, on fait chier, je suis bien au lit ». Non, non, ça, c'est pas bien.
Ouais. Non, c'est vrai, mais après, quelquefois, ça fait vraiment, c'est vraiment pénible aussi d'aller travailler quand le travail est trop dur, quand on est maltraité.
Oui,
quand...
mais c'est pour ça que j'ai dit que si on voit que ce n'est pas possible, il faut changer.
C'est ça, il faut partir, aller ailleurs.
Il faut partir.
Mais il y a des âges où c'est difficile, par exemple.
Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre qu'on soit trop vieux. Sinon, après, voilà, on est les déchets de la société, après.
Il ne faut pas. Il ne faut peut-être pas aller si fort.
C'est comme ça. On devient comme on dit chez nous, on devient un parasite, après. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir les visions de la suite et de l'avenir moyens. Et vous trouvez qu'en France, on a vraiment tous les moyens pour s'orienter comme on veut?
Ah, bien sûr.
Plus qu'en Albanie, peut-être.
En Albanie aussi, tu as le moyen à rester regarder les étoiles. Mais non, ici en France, c'est lui qui n'arrive pas à trouver du boulot, faire des formations en France, vraiment qu'il n'a pas de volonté.
Ouais, alors bon, peut-être.
Non, il y a les possibilités, il faut... Après, pour mon point de vue, hein, après les gens qui sont nés ici, ils ont grandi ici, peut-être ils voient différemment parce qu'ils sont habitués à avoir une vie comme ça. Mais...
Non, mais peut-être que vous aviez une vitalité. Enfin, quand on fait un voyage pareil, ça donne une envie vraiment d'y aller à fond, quoi.
On cherche une meilleure vie, hein, on cherche une tranquillité, on veut ce qu'on a vécu, on veut plus le revivre, hein, c'est tout. Hein. Moi, ce que je dis à mes enfants, mes enfants, ils ont eu un iPhone, quoi. Je dis, écoute, toi, t'as un iPhone, mais moi, j'avais même pas une banane à manger.
Vous avez un enfant de 16 ans, je crois, 17 ans, je sais plus.
Ouais, 16 et 11, quoi.
Et qu'est-ce qu'il veut faire comme travail?
Le grand, lui, il est parti dans la marine. Là, il fait une préparation marine cette année.
Marine nationale?
Marine nationale. Et dès qu'il aura son bac, en fait, il va entrer en maestrance.
Et vous lui donnez des conseils?
Oui, qu'il réussisse. J'ai dit, tu sors de la maison, tu rentres pas sans un diplôme ou quoi que ce soit.
Et conseils pour réussir? Il faut travailler et bon.
Non, je suis toujours derrière pour le motiver, pour pas non plus qu'il croit que c'est un métier dur. Parce que comme tout métier, il n'y a jamais un métier facile. Hein, il y a toujours l'avantage et l'inconvénient. Non, il veut entrer dans le sous-marin, en fait.
Ah, c'est vrai, ouais, mais c'est pas si facile. Hein, parce que...
Voilà, après, il est passionné aussi. C'est pas non plus...
Oui, ça part d'une passion.
Moi, nous, on ne pousse pas. Nous, on est là en tant que parents, c'est le conseiller. Après, certes, on ne connaît pas le métier de la marine. Mais bon, comme mon père a travaillé dans l'aviation militaire à l'époque en Albanie.
Votre père était mécano des avions.
Oui, avion de chasse. L'aéroport où il a travaillé mon père, aujourd'hui, il fait partie de force de l'OTAN.
Ah oui?
Voilà, c'était inauguré il y a quelques jours. Maintenant, c'est la base de l'OTAN qui est en Albanie. La seule.
D'accord. Voilà, on a trois générations, là, à mécano.
Et c'est vrai qu'il est un peu fier de son côté que son grand-père était dans l'aviation. Et en fait, son projet était être pilote, mais bon, pilote, en fait, c'est très dur, les dossiers.
Il faut être très, très bon en maths, je crois, déjà. Et après, physiquement...
Le maths, mais bon, après, c'est un peu... Bon, c'est quelque chose, de toute façon ça n'empêche pas de suivre son projet, mais c'est vrai que là il s'est passionné des sous-marins, en fait, il trouve ça génial aussi, entrer dans l'eau, et voilà quoi.
Oui, bon. C'est extraordinaire, ouais. Enfin, après la vie dans le sous-marin est un peu étroite, mais...
Oui, mais bon, après comme il s'est dit, si je travaille là-dedans, en fait, au bout de 15 ans, il pense à la retraite.
Ok, ouais, c'est un avantage.
Papa, je suis en retraite, après je peux travailler en civil, gagner ma vie différemment.
D'accord. Ouais.
Bon, c'est son point de vue. Pour le deuxième, lui, il a encore.
Moi, il a 11 ans seulement. Ouais. Ok, merci beaucoup, Elion, pour ce passionnant voyage.
Merci à toi aussi, Hervé, m'avoir invité.
Voilà, je précise qu'on est voisins, on se connaît assez bien. Habituellement, oui. Je te tutoie.
Ouais, de toute façon. Et pour les Albanais, vous, vraiment, est très dur parce que pour nous, vraiment, c'est pluriel. Et au début, on m'a dit, et vous, monsieur, je tourne ma tête derrière moi, je regarde, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que me dit? Pourquoi me dit vous? Je suis tout seul.
Ah ouais.
Et après, c'est ouais, ça. Ouais. Tant que reprendre le vous, vraiment, c'est
ouais,
vrai
pour
que...
Pour l'émission de radio, j'aime bien vous voyez, ça donne une sorte de distance. Ouais, bon. Eh bien, merci beaucoup, Elion. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.